Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est l'organisation de l'Église, docteurs, diacres et autres membres. Dans le monde dit chrétien de nos jours, il y a une multitude de titres et de fonctions que les hommes ont créés. On trouve des curés, des visionnaires, des évangélistes suprêmes, des archevêques, des présidents, des cardinaux, des monseigneurs, des abbés, des patriarches, des praticiens, des généraux, des révérends, et j'en passe. Mais les fonctions mentionnées dans le Nouveau Testament sont relativement peu nombreuses. Nous avons étudié les rôles des apôtres et des prophètes, dont le travail a été achevé au 1er siècle avec la révélation et la confirmation de l'Évangile. Nous avons aussi vu le travail des évangélistes et des pasteurs, appelés également évêques ou anciens. Il ne reste que deux autres fonctions dans l'Église qui sont nommées dans le Nouveau Testament, celles de docteur et de diacre. En français, le terme « docteur » désigne le plus souvent soit un médecin, soit une personne qui a obtenu un doctorat, c'est-à-dire un diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche mené après le DEA. En fait, ce mot est dérivé du mot latin « docteur », qui signifiait simplement « un enseignant ». C'est dans ce sens que le mot « docteur » est employé dans la Bible. Il ne sous-entend pas de diplôme particulier. Le mot « maître » est souvent employé pour traduire le même mot grec. Acte 13, verset 1 est un verset où nous trouvons le mot « docteur ». Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Évidemment, ce verset fait une distinction entre prophète et docteur. Les deux mots ne sont pas interchangeables. Les prophètes révélaient par inspiration du Saint-Esprit de nouvelles vérités, celles que Dieu n'avait pas fait connaître auparavant. Les docteurs ou enseignants en expliquaient le sens et en faisaient application. Il s'agit donc d'un autre rôle qui continuera toujours dans l'Église. On aura toujours besoin de personnes qui, par leurs études soigneuses des Écritures et leur capacité de faire comprendre aux autres, nous aident à apprendre ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Dans un sens, tous les chrétiens devraient progresser dans leur connaissance au point de pouvoir enseigner d'autres personnes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reproche certains disciples en ces termes. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Hébreux 5, verset 12. En même temps, Paul dit en 1 Corinthiens 12, verset 29, que tous dans l'Église ne devraient pas s'attendre à être docteurs, de même qu'on ne s'attend pas tous à être apôtres ou faiseurs de miracles. Et Jacques 3, verset 1 dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Tandis qu'on peut bien être docteur sans avoir toutes les qualifications d'un ancien. Pour être un ancien de l'Église, il faut être capable d'enseigner. Il n'y a pas un niveau objectif et vérifiable de connaissances qu'il faut atteindre ou un diplôme particulier qu'il faut obtenir pour être enseignant. On dit parfois qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. Et à un certain degré, ceci est vrai en ce qui concerne l'enseignement aussi. Celui qui, dans un groupe donné, ne serait pas pris comme maître parce que plusieurs autres ont plus de connaissances que lui, pourrait, dans un autre groupe, être l'enseignant le plus qualifié. C'est relatif. Mais quelle que soit leur situation, ceux qui enseignent la parole de Dieu dans l'Église doivent prendre très au sérieux cette responsabilité et étudier bien. Ils doivent écouter l'exhortation adressée aux jeunes prédicateurs en 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi d'être digne de l'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. La dernière fonction dans l'Église du Nouveau Testament que nous examinerons est celle de diacre. Ce mot est la forme francisée du mot grec diakonos, qui signifie serviteur. Serviteur, non pas dans le sens d'un esclave, mais de quelqu'un qui sert volontairement, de bon gré. Ce mot est employé dans la Bible pour parler des domestiques, en Jean 2, verset 5, et de tous les chrétiens, qui doivent suivre l'exemple de Jésus qui est venu non pour être servi, mais pour servir, Luc 19, verset 10, et qui dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ». Le mot est aussi employé pour désigner certaines personnes officiellement choisies selon des critères pour un service dans l'Église. Quand il s'agit de ce dernier sens, le mot est généralement rendu diacre plutôt que serviteur ou ministre. C'est le contexte qui permet généralement de savoir si un passage utilise le mot diakonos de cette façon, comme une fonction dans l'Église. Les deux passages qu'il emploie le plus clairement de cette façon sont Philippiens 1, verset 1, où Paul adresse son épître à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 10 et 12 et 13, où il donne les critères à remplir par les diacres. La Bible ne définit pas la sorte de service rendu par les diacres. Beaucoup estiment que leur travail concernerait souvent la distribution d'aide aux pauvres, les visites aux malades, le soin des biens matériels de l'Église ou ses lieux de culte, et d'autres tâches d'ordre plutôt matériel. Cette description fait penser aux hommes choisis par l'Église de Jérusalem en Actes 6 pour veiller à la juste distribution de nourriture aux veuves, pour que les apôtres puissent continuer de se consacrer à la parole et la prière au lieu de servir aux tables. Généralement, on estime que les anciens peuvent bien déléguer à des diacres d'autres tâches liées à l'enseignement, à l'adoration, à l'organisation de différentes activités concernant la vie de l'Église. Mais ce qui est certain, c'est que les diacres ne constituaient pas une sorte de collège, de comité ou de conseil qui surveillait tout le travail de l'Église, engageait ou renvoyait le prédicateur et gérait les finances. Les évêques ou anciens étaient les surveillants de l'assemblée. La parole de Dieu précise les qualifications qu'un homme doit posséder avant d'être choisi comme diacre. 1 Timothée 3 dit « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Dans certaines églises, on constate que des hommes sont choisis comme diacres, qu'ils soient des chrétiens mûrs et de bon caractère ou pas, parce qu'ils ont les moyens financiers de pouvoir aider l'Église. En les nommant diacres, ces églises cherchent à les flatter et à les retenir dans l'assemblée. Elles ne tiennent pas compte des critères donnés par inspiration divine, mais une telle façon de faire ne peut pas plaire à Dieu. Remarquez que, contrairement aux qualifications des anciens, en Tite 1, verset 6, il n'est pas exigé que les diacres aient des enfants déjà chrétiens. Ils sont souvent moins âgés que les anciens et sont donc toujours en train d'élever leurs enfants. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient aptes à enseigner, mais ils doivent s'attacher à la vérité, conserver le mystère de la foi. Les anciens sont, par contre, des hommes plus mûrs et expérimentés. Depuis très longtemps, les hommes ont créé une distinction dans les églises entre ceux qui sont appelés le clergé et ceux qu'on appelle les laïcs. Le clergé, appelé parfois la hiérarchie de l'église, serait composé de ceux qui sont spécialement consacrés au service de Dieu et qui sont les seuls à être autorisés à administrer la communion, le baptême et d'autres cérémonies. Ils sont parfois vus comme étant les professionnels de la religion. Les laïcs, par contre, seraient plus préoccupés par des choses temporelles que spirituelles. Ils sont souvent des assistants ou spectateurs plutôt que des participants actifs. Se voyant comme des non-initiés et ne voulant pas ménager le temps nécessaire, ils laissent généralement aux soins du clergé de connaître à fond la parole de Dieu, de prendre les décisions et même de fournir une bonne part du travail de tout genre dans l'Église. Sachez que les termes « clergé » et « laïc » ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Ce qui est plus important, c'est qu'une telle distinction, l'idée de deux catégories de personnes au sein de l'Église, ne paraît nulle part dans les pages du Nouveau Testament, là où nous apprenons la nature de l'Église du Seigneur. L'accent dans la Bible est mis au contraire sur l'égalité de tous les membres. Jésus a donné un avertissement très clair à ceux qui ont envie de se voir exaltés par rapport aux autres disciples, en prenant les pharisiens et les scribes juifs comme exemple à ne pas suivre. Il dit « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais ne vous faites pas appeler « Rabbi ». Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Matthieu 23, versets 6 à 10. La Bible insiste également sur la participation active de chaque membre. L'apôtre Paul insiste sur l'utilité de chaque membre de l'Église, quel que soit son talent. En 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27, il se sert d'une comparaison avec le corps humain. Écoutez la version « parole vivante » de ce texte. En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds. Je peux fort bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux, dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble le corps du Christ, et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Reconnaissons que toutes les fonctions dont nous avons parlé existent pour le bien de l'Église et non pas pour les personnes qui les remplissent. Les conducteurs de l'Église ne sont pas des vedettes ou des stars. Leur responsabilité n'est pas une occasion de dominer sur les autres ou de s'enrichir. Ils doivent servir humblement, se sacrifier chaque jour pour leurs frères et sœurs et compter sur la récompense céleste que Dieu lui-même donnera.
Ayez en vous ce même esprit qu'était celui de Jésus-Christ, quoique l'égal du Père, il s'est vidé de sa grandeur, a pris le corps d'un serviteur, au vivant. ami s'est humilié jusqu'à mourir, il s'est plié à souffrir comme un homme. C'est pourquoi Dieu